Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au bout du téléphone le lieutenant-colonel Michelin, que je ne présente évidemment plus. Alors je rappelle évidemment, on fait tout ça par téléphone pour éviter de sortir le plus possible, rester chez vous tant que cette période de confinement est de vigueur. Alors, colonel, on a commencé très fort au début sur la Seconde Guerre mondiale avec Croix de Fer et Un pont trop loin, et après un petit hiatus, vous nous y ramenez, mais vous nous y ramenez cette fois plus avec un film, avec une série, à savoir Band of Brothers, qui est une série HBO de 2001, diffusée en France en 2002, et produite quand même par Dubolinge, c'est-à-dire par Tom Hanks et Steven Spielberg. J'en profite pour préciser qu'elle est à la fois à la demande sur Canal+, mais aussi en streaming sur OCS, comme le sont d'ailleurs toutes les séries HBO. Alors, je vais juste dire que j'approuve évidemment totalement ce choix. D'abord, du point de vue du format, parce que c'est une mini-série de 10 épisodes, donc ça se fait assez bien, et puis ensuite, vous pouvez passer à autre chose, c'est pas une immense odyssée sur 5 saisons. Et puis, c'est vraiment exceptionnel, c'est une série, donc j'ai pas eu le temps de tout revoir, mais je viens de revoir les épisodes du début pour préparer, parce que ce podcast c'est une excellente excuse pour que je regarde des bons films et des bonnes séries, et c'est vraiment une très très belle, une très très grande représentation de la guerre. Alors, Jean, expliquez-nous ce que vous retenez, enfin ce qui est important pour vous dans ce Band of Brothers, ou Frères d'armes en français.
Alors, donc moi, ça m'a donné, en fait, quand on a commencé à préparer cette petite interview téléphonique, je me suis interrogé sur quel est l'objet dont j'aimerais vous parler. J'ai pensé à Generation Kill, dont j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, une série sur laquelle j'ai écrit sur le site World of Rocks.
Quelqu'un a posé une petite option dessus, je vous dis.
Mais quelqu'un d'autre en parlera mieux que moi. Band of Brothers, c'est un peu une série doudou, dans la mesure où c'est une série qui a vieilli avec mon engagement militaire, puisqu'elle date à peu près de l'époque, à quelques années près, où je suis rentré à Saint-Cyr.
Alors, il faut dire qu'elle date de 2001 et que, et que le premier épisode a été diffusé apparemment le 9 septembre 2001, ce qui s'appelle dans le jargon hollywoodien de pas avoir de bol.
Je l'ai vu plus tard que ça, j'ai dû la voir en fin de scolarité, et je l'ai revu plusieurs fois depuis, et elle survit assez bien au test du temps. Alors pourquoi c'est bien Band of Brothers? Bon, d'abord, de quoi ça parle? Ça colle un bouquin de Stephen Ambrose qui a retracé de manière un petit peu hagiographique, c'est pas un travail historique à mon avis très rigoureux, l'itinéraire d'une compagnie d'infanterie aéroportée, de leur formation dans les camps militaires américains en 1942 jusqu'à leur saut au-dessus de la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 44, et toute la campagne où ils ont participé successivement, donc à la bataille de Normandie, à l'opération Market Garden, à la bataille des Ardennes, et ensuite au combat de libération, au combat en Allemagne, jusqu'à la prise du nid d'aigle de Hitler à Bad Holkenstein dans les montagnes de Bavière, et qui ensuite les suit sur l'après-guerre quand ils se retrouvent en force d'occupation en Autriche. Donc c'est une fresque qui est quand même assez longue, qui suit un certain nombre de personnages forts lesquels sont déjà décrits dans le bouquin, et qui suit ces personnages dans la durée.
Alors, on peut préciser que c'est une vieille série, mais qui a du beau monde aussi à l'écran, puisqu'il y a Damian Lewis qu'on a revu après dans Homeland, puis
Ouais,
dans Billions. C'était le, je me suis rappelé après, c'est en fait c'est le premier grand rôle de David Schwimmer, le Ross de Friends après Friends.
c'est ça, c'était un peu, et d'ailleurs c'était un petit peu perturbant parce qu'ils avaient
C'était très perturbant.
ils avaient eu en français, alors moi je n'ai regardé cette série en entier qu'en anglais, mais quand je suis tombé une fois sur une rediffusion d'un épisode en français, ils avaient gardé le doubleur de Friends avec sa voix un peu goofy là, un peu comme ça là, et du coup ça collait pas du tout à la personnalité du capitaine Sommel qui est une espèce de brute.
Ouais, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on commence cette série à l'entraînement, donc d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, ou avec la figure de ce capitaine très très peu sympathique, disons.
Alors, ce qui est pourquoi c'est bien? C'est bien parce que d'abord, il faut se replonger dans le contexte en 2001. C'est la première série qui est au croisement d'une ambition cinématographique un petit peu renouvelée pour la cinématographie de guerre. C'est la même équipe hein, qui est derrière le soldat Ryan qui a complètement changé la manière de filmer la guerre à l'écran quand même. C'est Tom Hanks et Steven Spielberg qui sont à la production. Donc il y a des moyens qui sont mis à l'écran, ce qui pour un format de série à l'époque est complètement inédit. Et on est aussi au début de la grande ère des séries, puisque globalement, les années 2000, c'est le moment où on va avoir les premières grandes séries qui vont devenir des phénomènes de société et qui vont contribuer au renouveau complet du genre. Je pense à 24 heures chrono, ou on va arriver à Lost quelques années après. Enfin, voilà, on est vraiment au tout début de ce truc-là. Et donc Band of Brothers, c'est vraiment la première fois où on a un produit qui est une série pour le grand public, qui est filmé comme au cinéma, mais directement pour la télévision, mais qui n'est pas au format télévision, avec des gros moyens, un gros budget, un très beau casting. Damien Lewis, qui à l'époque n'est pas très connu, hein, on l'a vu dans le téléfilm anglais Warriors sur les casques bleus de Bosnie quelques années avant, mais personne ne s'en souvient. Donc c'est globalement, il y a quand même l'alignement d'un certain nombre de paramètres qui font que c'est une très grande série. La deuxième chose qui est bien, c'est que, alors moi je suis un amoureux du format de la mini-série. Parce qu'une série, au bout de la troisième saison, il faut bien reconnaître que bien souvent ça a tendance à s'épuiser. Alors que la mini-série permet de prendre un temps de narration qu'on n'a pas au cinéma quand il faut faire tenir une intrigue entière en 1 heure et demie. Et en même temps, il n'y a pas l'usure de, au bout de la sixième saison de je sais pas quelle série, on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir inventer sur des trames narratiques qui sont usées jusqu'à la corde.
Donc c'est une mini-série sur 10 épisodes, et du coup ça fait que, bah, par exemple, dans ces grandes journées confinement, vous pouvez commencer à les regarder, vous allez y passer la journée, peut-être 2 jours si jamais vous avez envie de passer 10 minutes à la fenêtre, mais vous ressortirez vraiment couvert de la boue des Ardennes. Enfin voilà, il y a une vraie capacité d'immersion assez folle en passant
Et
10 heures dans un
en fait,
bataillon comme ça, quoi.
ce qui est bien avec ce format de la mini-série, c'est que ça colle bien à la narration d'un objet militaire. Parce que raconter la guerre, ça nécessite, ben, c'est une de mes vieilles obsessions, raconter la guerre, ça nécessite de raconter le temps long. On ne peut pas juste prendre un épisode glorieux et dire voilà, c'est ça la guerre. Parce qu'en fait, tous les gens qui ont connu des situations de guerre ou des situations de combat, vous dites que globalement, à la guerre, on passe quand même 90% de son temps, soit à s'emmerder, soit à s'entraîner. Mais ça fait partie de la complexité de l'expérience guerrière, quand on veut la représenter à l'écran, c'est quelque chose que le numéro d'inflexion dont on vous avait parlé sur Guerre et Cinéma couvre très bien. C'est difficile de rendre compte de quelque chose de compliqué et de protéiforme dans un format court. L'immense avantage de cette série, on parlera des défauts après si vous voulez, mais c'est qu'elle permet quand même de raconter une histoire où on suit les gens dans la durée avec de la formation de l'unité, donc avec ce fameux capitaine Sobel qui est une brute épaisse, qui est d'ailleurs
Mais
traité de
c'est
manière
là que
très
c'est
subtile.
très intéressant. Ouais. C'est très intéressant parce que là, je viens de revoir. Il est vraiment présent, surtout au début. Enfin, parce qu'il y a un truc, c'est entre l'entraînement, justement, entre ce qu'est un chef d'entraînement et un chef de mission, et le capitaine Sobel. Tout le monde dit en permanence que c'est un incapable, etc. Mais il a réussi quand même à former une compagnie de manière assez efficace, y
Ah
compris
mais
en acceptant
il
de
a.
se faire détester de tout le monde, et surtout en acceptant de se faire détester de tout le monde.
Oui, mais c'est un style de commandement et en fait la série montre assez. Alors c'est un peu binaire parce qu'en fait d'une manière générale il y a différents styles de commandement. Hein. Il y a des capitaines qui sont des entraîneurs et puis il y a des capitaines qui sont des contraigneurs. Je sais pas si le mot existe, mais qui
On va
sont,
leur rappeler, c'est
voilà,
bien.
qui commandent par la terreur, hein, ça peut arriver. Et il faut pas dire que ça donne pas de résultats, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, alors ils le disent pas dans la série, mais ils le disent dans le bouquin, hein, l'interview d'un des vétérans qui dit de manière non équivoque, le capitaine Sobel a fait la Easy Company. Derrière, est-ce que c'est le bon profil pour emmener des mecs au combat? Ça, il appartiendra à chacun de le juger. L'histoire, en tout cas, en a décidé autrement. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est d'abord que les chefs changent, les chefs évoluent, ils montent en grade, les sous-officiers prennent du galon, c'est-à-dire les gens commencent comme simples soldats et puis ensuite restent à la compagnie. Il y a de l'attrition, donc il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent dans des circonstances parfois absurdes, parfois tragiques. Donc il y a vraiment cette espèce de respiration particulière d'unité de combat où l'ossature de base se transmet par les gens qui restent longtemps, qui sont les quelques sous-officiers qu'on va avoir. Ça c'est très, alors c'est très américain parce que la narration militaire américaine fait que la figure du sous-officier est absolument centrale et ils tiennent effectivement à bout de bras cette compagnie dans les heures difficiles, notamment dans les Ardennes. Ce qui est bien, c'est que on a le temps de comprendre qui sont ces gens, de voir comment leur rapport évolue, ce que la guerre fait à leur manière d'interagir entre eux. Et en fait, une fois qu'on... Donc c'est ça donne une image assez juste des mécanismes de relations humaines à l'intérieur d'une unité de combat, qui est un corps vivant dans lequel les choses se passent pas sans friction quand même.
Ouais, alors juste avant de pour terminer, les défauts, vous nous avez parlé de défauts, il y a des choses qui vous ont fait tiquer?
Alors, les défauts, on pourrait. Alors, les gens qui sont un petit peu rétifs à la narration très Spielbergienne, où il y
Oui,
a quand
alors
même
ça,
beaucoup
il faut le préciser,
d'effets,
c'est un film de Steven Spielberg, il n'y a pas de
c'est un film de
doute,
Steven
enfin
Spielberg. Donc,
c'est en dix fois 1 heure, mais c'est un film de Steven
voilà,
Spielberg et un bon.
c'est un très bon film de Steven Spielberg, mais les gens qui ont tiqué à la fin de La Liste de Schindler, où le personnage d'Oscar Schindler s'écroule dans une scène très tire-larmes et très américaine, seront aussi un petit peu agacés par certains ressorts narratifs un petit peu faciles. Il y a un épisode entier qui est construit sur la dramatique libération d'un camp de concentration quelque part en Allemagne, dont on n'est pas certain que ce soit vraiment déroulé comme c'est filmé, mais c'est voilà, c'est des accents très Spielbergiens dans la narration. Il n'y a pas du tout cette espèce de sobriété et la sécheresse qu'on peut retrouver dans d'autres produits qui sont une autre manière de raconter la guerre. Il demeure que c'est une fresque de grande ampleur qui rend assez bien justice au chaos des combats et à la difficulté d'être chef dans les moments difficiles et qu'un chef. C'est pas juste celui sur lequel on a cousu le galon, c'est aussi celui dans les situations de crise, et c'est pas inutile de se le rappeler en ce moment, en particulier, c'est celui qui prend les responsabilités au moment où il y a des responsabilités à prendre, sans forcément les chercher ou chercher la gloriole qu'il y a derrière. Mais voilà, on a tous autour de nous, dans notre vie, rencontré des adjudants-chefs Lipton, qui sont des mecs qui vont organiser la situation quand la compagnie vient de se prendre un barrage et que le chef. Le lieutenant Dyke s'est barré au PC du bataillon pour aller chercher de l'aide, quoi.
Très bien, bah alors vous aurez compris qu'on vous recommande très chaudement
Très chaudement.
de passer ces journées de confinement devant Band of Brothers, donc Frères d'armes en français, qui est donc, je vous le rappelle, sur OCS ou à la demande sur le service de vidéo à la demande de Canal+. Merci beaucoup Jean-Michelin.
Merci à vous. Bon confinement, lavez-vous les mains.
Ouais. Et à demain tout le monde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.